Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi soir, on a le plaisir de lui jaser. Qui est-il? Ben, c'est un éminent avocat, c'est l'ancien ministre de la Justice libérale. C'est le gars derrière bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST. C'est Maître Marc Bellemare que vous devez contacter. Comment allez-vous, Maître Bellemare?
Ah, très bien. Un peu frisquet, mais à part ça, ça va.
Ouais.
Le cerveau est toujours au chaud.
Oui, bien, en fin de semaine, j'ai été faire un tour au tournoi international de hockey, puis oui, Maître Bellemare, puis je peux vous dire que on m'a parlé des petits Thaïlandais là, qui étaient de passage à Québec, et j'imagine que plus que vous, ils ont été surpris par la température qu'on avait ici dans la région.
Oui, Québec, c'est pas Bangkok. Hein? Bangkok, il y a un K, puis Québec, il y a un Q. Alors, c'est différent. Et c'est sûr que les gens qui viennent au Québec sont toujours surpris de la température qu'on a, du froid qu'on a. Moi, j'ai des amis hollandais. Pourtant, la Hollande, c'est pas un pays du Sud. Des amis hollandais qui sont venus au Québec il y a une quinzaine d'années, strictement pour vivre la température du Québec. Et je me souviens d'avoir traversé le parc avec Catherine, qui est une fille de Boxtel, qui est dans le sud de la Hollande. Et je peux te dire une affaire, c'était toute une expérience. Traverser le parc dans Gadou puis dans la tempête, pas une tempête telle que le parc était fermé, mais si tu veux faire vivre une expérience à un Européen, amène-les dans le parc des Laurentides, amène-les à Chicoutimi, tu vas voir qu'ils vont freaker. Alors, la Thaïlande, évidemment, c'est beaucoup plus chaud. Et ben, bravo pour quand même d'abord faire du hockey, d'abord faire du patin, qui est quand même exceptionnel, et venir vivre une expérience hockey majeure pour un jeune, peu importe où il vient dans le monde, c'est quand même, le tournoi Pee-Wee, c'est quand même un événement, à mon avis, l'événement le plus important qu'on puisse avoir à Québec, parce que c'est hivernal.
Oui, puis je peux vous dire que Patrick Dome, que je recevais à l'émission vendredi, qui est le directeur général du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, me mentionnait qu'à chaque année, il arrive des choses exceptionnelles où on doit redire aux équipes, s'il vous plaît, ne vous mettez pas la langue sur du métal parce que votre langue va coller. Puis on dirait que les gens, à chaque année, ils croient pas. Puis ils ont toujours des histoires abracadabrantes sur des jeunes Pee-Wee qui ont tenté de nouvelles expériences. Puis en particulier pour les Thaïlandais, ils ont été faire un tour au village Vacances Valcartier, de ce que je comprends. Là, pour eux autres, c'est exceptionnel. Ils n'ont jamais vu ça en Thaïlande, ce type d'attraction-là. Et ils ont joué sur une patinoire extérieure, Maître Bellemare, ce qui est assez exceptionnel aussi pour eux. Là. Fait que ce qu'on me dit, c'est que les sourires étaient incroyables et à tout jamais, ce sera enregistré dans leur mémoire, la ville de Québec.
Et puis, bon, les Thaïlandais sont plus familiers avec les éléphants qu'avec les lames de patin. Mais oui, c'est une belle expérience et ça montre qu'à quel point le tournoi Pee-Wee a de l'envergure. Il ne faut pas perdre ça. Hein. On ne faut jamais prendre pour acquis. Je sais qu'il y a des villes américaines, notamment, qui essaient de rivaliser avec notre tournoi Pee-Wee, qui essaient peut-être éventuellement d'avoir un tel tournoi, mais c'est une... quantité de pays qui sont représentés. C'est bon pour Québec, c'est bon pour la réputation, c'est bon pour notre sport national. Il reste juste à avoir quelques vedettes de hockey québécoises, francophones, dans la Ligue nationale, améliorer un petit peu notre rendement de ce côté-là pour avoir véritablement des personnes qui vont représenter la francophonie québécoise partout dans le monde à travers la Ligue nationale. Là-dessus, on perd un peu de terrain, mais au moins on conserve le tournoi Pee-Wee.
Exactement. Dans nos dossiers qui concernent Maître Marc Bellemare, parlons du droit à l'avortement dans la Constitution. Simon-Jolin Barrette qui a décidé de renoncer à mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Il faut dire que ça remonte à loin, là, ce droit à l'avortement-là. Ça revient à Morgan Taylor. Vous vous souvenez de Morgan Taylor, docteur Morgan Taylor, qui pratiquait les avortements? Bien, à partir de ce moment-là, on avait décriminalisé les avortements et au Canada, bien, c'était pas inscrit dans aucune loi, mais la jurisprudence faisait en sorte que les femmes pouvaient avoir accès à l'avortement et on ne pouvait pas les poursuivre aux criminels. Et de ce qu'on comprend, puis vous saurez me l'expliquer, là, si on met ça dans une loi, bien, ça pourrait permettre à des pro-vie, exemple, de challenger cette loi-là.
Oui, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'analyser le droit. Je suis même très, très déçu de voir que le ministre a reculé sur l'idée d'inscrire dans la charte, pas la charte, mais la Constitution du Québec, le droit d'une femme de disposer de son corps, parce que, à mon avis, ça aurait été, chut été, parce que ça a l'air que c'est plus possible, une opportunité d'inscrire positivement dans un texte constitutionnel un droit aussi fondamental. Ce sera la première fois au Canada que ce serait le cas parce que nos lois n'ont jamais inscrit positivement, de façon explicite, le droit à l'avortement, alors que ça aurait été le cas. Alors là, on se retrouve avec une situation où c'est la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux au Canada. Alors, il y a de la jurisprudence en matière de logement au tribunal administratif du logement, il y a de la jurisprudence en matière de divorce jusqu'à la Cour suprême, mais c'est la Cour suprême du Canada qui décide ultimement du droit au Canada à travers les lois et les différents jugements qui ont été rendus. Alors oui, il y a Morgan Taylor qui est le jugement de principe, il y en a plusieurs qui sont rendus jusqu'à la Cour suprême, il y a aussi la décision de Chantal Daigle. On se souviendra de Chantal Daigle avec son Jean-Guy Tremblay national, qui est devenu une vedette, qui avait décidé de prendre des procédures en injonction pour empêcher Chantal Daigle d'avoir recours à un avortement en disant « Moi, je suis le père de cet enfant-là, de ce fœtus-là, et donc je veux que cet enfant-là voit le jour. » Donc, il y avait des procédures qui avaient été intentées et la Cour d'appel du Québec à 5-0, 5 juges à 0 avaient décidé que Jean-Guy Tremblay avait raison et que Chantal Daigle ne pouvait pas se faire avorter, de sorte que l'affaire s'est retrouvée devant la Cour suprême, et ça a été tellement long que la grossesse continue d'évoluer. Mme Daigle avait décidé d'obtenir un avortement aux États-Unis en attendant le jugement final, mais compte tenu que même si l'affaire était devenue théorique, c'était dans l'intérêt national, la Cour suprême avait tranché unanimement en faveur de Mme Daigle, à savoir qu'elle avait le droit d'obtenir un avortement. Mais cette situation-là pourrait se reproduire encore aujourd'hui. Et le problème, c'est que la jurisprudence, c'est malléable, c'est évolutif. On l'a vu aux États-Unis, l'affaire Roe contre Dave a finalement été cassée par la Cour suprême, une Cour suprême plus conservatrice. Et je pense que cette situation-là pourrait se produire au Canada aussi. Donc, la jurisprudence, c'est incertain. Et je pense que d'inscrire ce droit-là dans la Constitution du Québec aurait été un plus.
Okay. Mais à ce moment-là, le barreau du Québec, il ne partage pas votre point de vue. Là. Selon le barreau du Québec, on disait que toute nouvelle législation ou modification législative pour réaffirmer nommément le droit à l'avortement comporte d'importants risques, dont le principal est d'ouvrir la porte à d'éventuelles limitations de ce droit.
Non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Pas d'accord avec le barreau là-dessus. Et je sais qu'il y a eu des groupes de femmes qui se sont prononcées.
Ce qui est plate pour moi, c'est que je ne peux pas vous ostiner vous, puis je ne peux pas ostiner le barreau non plus. Fait que je vais vous écouter.
Je pense que le barreau a pris une position politique pour faire plaisir à des groupes de pression, à des gens qui étaient contre ça en disant si on inscrit ça, ça va être négatif. C'est quand même assez particulier de soutenir que de l'inscription dans un texte de loi important, qui est la Constitution du Québec, le droit à l'avortement, c'est un recul. Moi, je ne marche pas là-dedans. Je pense que c'est plutôt positif. Ça sera un appui législatif incontournable, dont les tribunaux éventuellement devraient tenir compte dans l'évaluation des droits des femmes à l'accès à l'avortement. Parce que n'importe quand, de toute façon, aujourd'hui, un groupe pro-vie peut aller devant le tribunal pour attaquer une directive d'un hôpital, par exemple, qui procure des avortements gratuits aux frais de l'État, des politiques gouvernementales en matière de santé, qui pourrait être attaqué aussi devant un tribunal. N'importe quand, un groupe pro-vie peut prendre des procédures et attaquer différents aspects de l'exercice du droit à l'avortement au Québec, comme dans d'autres provinces, et ça peut se retrouver devant les tribunaux. Et la Cour suprême pourrait avoir un comportement, une attitude un petit peu moins ouverte qu'elle l'avait été dans les jugements d'Aigle et Morgan Taylor. Alors, il y a toujours un risque. Je ne dis pas que ce risque-là n'existe pas. Il aurait existé même avec la Charte, plutôt avec la Constitution du Québec, mais je ne vois pas en quoi on peut voir un recul dans le fait que dans la Constitution, on inscrive noir sur blanc que les femmes ont le droit de disposer de leur corps selon leur bon vouloir en tout état de cause. Je ne vois pas comment on peut considérer ça comme un recul. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là, mais le barreau, avec le nouveau bâtonnier Nadeau, a décidé d'aller en croisade face à plusieurs aspects de la Constitution proposée par Jolin Barrette, le ministre de la Justice. J'ai l'impression qu'on a un bâtonnier militant là, qui essaie de trouver des causes sympathiques et il y en a trouvé une là, mais je ne suis pas d'accord du tout avec sa position. Maintenant, le ministre a décidé de reculer. Je pense que c'est aussi pour des raisons politiques. On est en élection dans à peu près 6-7 mois, en octobre prochain, 2026. Donc, il y a une campagne au leadership. Madame Fréchette, qui est la leader actuellement, a dit qu'elle avait des doutes quant à l'opportunité d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution du Québec. Alors, Jolin Barrette a reculé là-dessus. Je pense que tout ça, Yannick, est de la politique, tout simplement. Mais au niveau juridique, je pense que le ministre avait raison et je déplore son recul. Personnellement.
Maître Bellemare, il y a un sujet qui a attiré mon attention la semaine dernière, plus précisément vendredi matin, sous la plume de Victoria Barry. Je sais que l'article est paru dans la presse et est paru dans Le Soleil aussi à Québec. On parle d'un enfant de 4 ans qui conduisait légalement une motoneige au moment de l'accident qui a entraîné sa mort en avril 2025. C'est un coroner qui s'est penché sur cet accident-là. Et ce que le coroner demande, c'est une sensibilisation accrue pour prévenir d'autres tragédies. On parle d'un jeune, le 12 avril 2025, qui circulait à motoneige en compagnie de quelqu'un qui avait plus de 18 ans et un autre bébé de 2 ans qui se retrouvait derrière cette personne-là qui avait plus de 18 ans. Et ce qu'on raconte, c'est que lorsque le jeune de 4 ans a fait une manœuvre inadéquate, ben, il a appuyé sur l'accélérateur, ce qui fait en sorte que l'adulte et l'enfant de 12 ans ont été expulsés de la motoneige et l'enfant de 4 ans s'est ramassé seul sur la motoneige et malheureusement, il a fait entre 30 et 60 mètres sur la motoneige à une vitesse folle et est entré en collision avec un arbre. Comme il était sur un terrain privé, ce qu'on comprend, c'est que c'était tout à fait légitime et c'était pas criminel de laisser un enfant sur une motoneige de 4 ans seul. Là, on comprend que c'est un accident puis qu'on n'avait pas prévu ça d'avance, bien entendu. Mais moi, ça me frappe de savoir qu'un enfant de 4 ans peut conduire une motoneige au Québec sur un terrain privé. Puis s'il se plante, puis s'il se pète la face d'un arbre puis qu'il meurt, bien, il n'y aura pas d'accusation au criminel par la suite.
Bien, il n'y aura pas d'accusation contre l'enfant parce qu'un enfant de 4 ans, ça n'a pas l'âge de discerner.
Non, mais l'adulte qui laisse son enfant de 4 ans sur la motoneige.
Évidemment, il y a des parents qui ne font pas le job manifestement dans ça. Mais l'enfant de 4 ans, on n'a pas la liberté ou la capacité de discerner ni en droit criminel, ni en droit civil. Alors, on ne peut pas poursuivre un enfant de 4 ans. On ne peut pas accuser un enfant de 4 ans d'un crime non plus, parce qu'il n'y a pas le discernement selon les lois civiles et les lois de nature criminelle au Canada. Alors ça, c'est clair. Maintenant, cet enfant-là, la plupart des enfants de 4 ans n'ont même pas l'âge de fréquenter une école ou même en préscolaire. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, ça dépend de la date de naissance, mais la plupart des enfants ne le sont pas. Alors, comment se fait-il que des parents laissent aller des enfants dans ce contexte-là? Les parents sont responsables parce que tu es responsable de tes enfants mineurs. À moins que tu fasses la preuve, il y a ce qu'on appelle une présomption dans le Code civil. C'est-à-dire que tu es présumé responsable des gestes que ton enfant peut causer sur une base délictuelle, donc une faute, mais tu peux renverser la présomption en faisant la preuve que tu as bien éduqué ton enfant et puis que tu lui as donné toute l'attention requise et que tu as fait tout ce qu'il fallait. Ça s'applique, évidemment, plus l'enfant vieillit, plus c'est facile pour un parent de renverser la présomption. Un enfant de 16 ans qui donne une claque sur la gueule à un autre dans une cour d'école, bon, tu peux facilement dire, j'ai dit à mon enfant de ne pas donner des claques sur la gueule, je l'ai bien éduqué, je suis un parent modèle, je fais bien ça, je donne l'exemple, etc. Le juge va renverser la présomption. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas condamner le jeune de 16 ans pour une faute qu'il a commise, mais toi, comme parent, tu vas te disculper. Mais un enfant de 4 ans, tu n'as pas d'excuse. Je vois mal comment on peut convaincre, parce qu'il y a des dommages qui sont causés là-dedans, une personne qui a vécu un préjudice, un dommage physique ou psychologique, matériel, suite à un accident comme ça, peut poursuivre les parents, et les parents n'auront pas grand argument pour dire « j'ai bien fait ça, puis j'ai bien éduqué mon enfant en le laissant conduire une motoneige à l'âge de 4 ans.
Ouais. » Ce qu'on apprend, Maître Bellemare, c'est qu'au Québec, ben, ce que j'apprends, j'imagine que vous étiez au courant, mais au Québec, la loi ne prévoit aucun âge minimal pour la conduite de véhicules hors route sur des terres privées. Elle permet donc qu'un enfant de tout âge, même très jeune, puisse légalement conduire une motoneige ou encore un VTT avec l'autorisation parentale. Maître Bellemare, pour ce qui est des décès liés aux véhicules hors route au Québec, là, au cours des 5 dernières années, la moyenne annuelle de décès attribuables à la pratique récréative de VTT et de motoneige, c'est 48 décès. Ça représente 12 % de tous les décès associés aux véhicules à moteur, toutes catégories. Et c'est 907 hospitalisations par année qui sont attribuables à la pratique du VTT ou la motoneige. Mais il semble qu'on pourrait encadrer ça pour ce qui est des jeunes. Un enfant de 4 ans seul sur une motoneige, Maître Bellemare. Ouais. Dans ce cas-ci, on comprend que c'est un accident. Mais un enfant de 4 ans, que ce soit légal sur un terrain privé, moi, je trouve ça complètement irresponsable si un parent laisse son enfant tout seul de 4 ans sur une motoneige pour adulte qui peut aller à 250 km/h.
Oui, c'est pas parce que c'est pas interdit légalement qu'il n'y a pas une faute de la part des parents. En d'autres termes, si tu as, en plus de laisser ton enfant de 4 ans circuler sur une motoneige, qui est une erreur et une faute manifeste à sa face même, si en plus de ça, il y a un règlement ou une loi qui l'interdit, bien évidemment, la faute est encore plus évidente. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien dans la loi, qu'il y a un vide juridique de ce côté-là, qu'un juge ne pourrait pas condamner un parent pour un dommage vécu par une personne en lien avec la conduite d'un enfant de 4 ans. Alors, et ça peut même être l'enfant lui-même qui est blessé. En d'autres termes, moi j'ai 4 ans, mon père me laisse conduire un motocross, une motoneige ou un véhicule d'une quelconque manière sur un terrain dangereux. Alors, je suis blessé à 4 ans, j'ai une commotion cérébrale, et toute ma vie, je vais subir les affres de cette commotion-là en termes de difficultés d'apprentissage, difficultés de travail, perte de revenus, etc. À ce moment-là, moi, je peux poursuivre mon père qui m'a laissé conduire à l'âge de 4 ans parce que moi, je n'ai pas compris parce que j'avais 4 ans, mais lui, il sait ça parce que lui, il en a 34. Puis il est supposé savoir que de me laisser conduire un véhicule comme ça, alors que je ne suis pas en mesure de comprendre l'importance du geste et le risque associé à ce geste dangereux-là, pourrait entraîner une condamnation auprès de mon père. C'est déjà arrivé. Alors, il y a des enfants qui naissent malades parce que les parents ont été négligents, peuvent poursuivre, même si le dommage est survenu à l'intérieur de l'utérus, peuvent éventuellement, prenant conscience du dommage qu'ils ont subi, peuvent poursuivre les parents qui ont été négligents.
Maître Bellemare,
l'enfant a toujours des recours, lui, pour ses propres dommages.
Dans un document qui a été publié en février 2025, donc ça date d'un an, la Société canadienne de pédiatrie a recommandé fermement que l'âge minimal pour conduire un véhicule hors route soit fixé à 16 ans. Selon le rapport, bien, les habiletés cognitives et physiques nécessaires pour contrôler un véhicule de ce type-là de manière sécuritaire se développent généralement vers 14 à 16 ans. Pour ce qui est des accidents de véhicules hors route impliquant des enfants maintenant, entre 2012 et 2023, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 6452 enfants qui ont été blessés. 230, en 10 ans, il y a 230 enfants qui sont décédés. Et de ce nombre, 37 enfants qui sont décédés étaient âgés de moins de 9 ans, dont 10 qui étaient aux commandes du véhicule. Et en moyenne, c'est 537 enfants blessés par année et 20 décès, Maître Bellemare.
Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même, c'est effarant. Et c'est sûr que c'est pas parce que tu réglementes un secteur qu'il n'y aura pas des gens qui vont commettre des fautes en ne respectant pas cette réglementation-là ou en commettant des fautes de façon plus générale. Mais ce que le juge doit regarder dans le cadre d'une poursuite en dommages-intérêts, c'est bien sûr le respect des lois, mais aussi la faute. Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce que le parent a bien agi? Est-ce que le parent a quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'il n'est pas responsable du dommage causé par son enfant? C'est ça qu'il faut regarder, peu importe le contexte. Mais oui, il existe des recours civils dans ces cas-là et le juge doit regarder la conduite de chacun de façon générale pour voir s'il n'y a pas une condamnation. Mais laisser un enfant de 4 ans au volant d'une motoneige, c'est manifestement une faute. Et s'il y a des dommages, bien, je vois mal comment le parent pourrait s'en sortir.
Parfait. Maintenant, Maître Bellemare, je vous mets en contexte. J'ai mon petit Joshua ou mon petit Isaac à la maison. Ils prennent mon 4 roues et ils s'en vont se promener sur ma terre privée ou sur la terre privée de mon voisin parce que j'ai la permission du voisin pour que mes enfants puissent se promener en 4 roues sur son terrain. Si mes enfants font une collision avec un arbre ou s'ils se renversent et les deux demeurent tétraplégiques là, suite à cet accident-là, ce qu'on ne souhaite pas, est-ce que j'ai un dédommagement, une assurance quelconque, la Société d'assurance automobile du Québec, parce que mon 4 roues, il est plaqué, est-ce que j'ai un montant pour que mon enfant soit capable de subvenir à ses besoins à partir de 18 ans?
Non, il n'y a pas de c'est pas parce que tu es plaqué que tu es admissible à des indemnités au niveau de la SAC. La seule façon d'obtenir une indemnité au niveau de la SAC, c'est de prouver qu'un véhicule automobile qui est impliqué dans l'accident. Alors, si avec ton 4 roues ou avec ton skidoo, tu as voulu éviter un véhicule automobile et que tu peux le prouver, s'il y a eu un accrochage entre le 4 roues, le skidoo et le véhicule automobile, à ce moment-là, prouvable, c'est la SAC qui va indemniser parce qu'il y a un véhicule automobile standard qui est impliqué dans l'accident. Sinon, si le 4 roues est renversé ou le skidoo est renversé sur une terre privée, il n'y a pas d'assurance automobile au niveau de la SAC. Il y a peut-être une assurance que tu as contractée dans le cadre de l'utilisation de ce véhicule-là qui est applicable. C'est possible. Il faut vérifier s'il n'y a pas un contrat d'assurance privée, mais l'État ne viendra pas à la rescousse pour un accident du simple fait que tu es plaqué parce que la loi sur l'assurance automobile prévoit que si l'accident survient au moment où tu et au volant d'un véhicule qui n'est pas destiné à circuler sur un chemin public. Là, j'entends les motocross, les 4 roues, les 3 roues, les skidoo, c'est tout dans le même bateau. Ces véhicules-là ne sont pas des véhicules assurés au niveau de la SAC en cas d'accident. Alors, il faut qu'il y ait un véhicule automobile impliqué. Autrement, bien, c'est les règles du droit civil habituel qui s'appliquent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une négligence? Est-ce que le voisin, en laissant circuler des enfants de 6-7 ans sur une motoneige ou sur un motocross, a commis une faute? Il pourrait être poursuivi, le voisin, pour avoir permis l'usage d'un véhicule dans ce contexte-là, le sachant. Les parents qui laissent aller les enfants pourraient aussi être poursuivables, mais comme je l'ai dit tantôt, plus l'enfant est en âge, plus il a 15, 16, 17 ans, moins la faute des adultes peut être retenue. Parce que 15, 16, 17 ans, c'est plus difficile de contrôler les enfants que 4, 5, 6 ans.
Mais je vous pose la question, là, parce que j'ai pas la réponse, mais je trouve ça particulier, moi, que mon 4 roues, là, je dois le plaquer, je dois envoyer mon argent à la Société d'assurance automobile du Québec, puis que je ne sois pas remboursé si jamais je scrape mon 4 roues puis que je ne suis pas en collision avec une voiture. À quoi ça me sert? Pourquoi je me plaque à la Société d'assurance automobile du Québec? Je pourrais juste m'assurer, moi, personnellement?
Tu te plaques à la Société de l'assurance automobile parce que la SAAC l'oblige et la loi l'oblige, mais il n'y a pas de contre-pouvoir que j'ai soulevé souvent au cours de ma carrière, parce qu'à chaque année, surtout l'hiver, je reçois des appels de gens qui me disent « J'ai été blessé en motoneige, j'ai même été blessé sur la voie publique en traversant l'autoroute 40 ou en traversant l'autoroute 20 à la hauteur de Montréal ou de Québec, peu importe, Saint-Hyacinthe, Drummondville, etc. J'ai traversé l'autoroute ou une voie de circulation et ce faisant, sur la route, j'ai capoté avec ma motoneige et je me suis infligé quelques fractures. Ce n'est pas acceptable au niveau de la loi sur l'assurance automobile parce que même si c'est survenu sur un chemin public, il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'interaction avec un véhicule automobile. Si tu as voulu éviter un véhicule automobile ou que tu as été en collision avec un véhicule automobile, Là, c'est un accident d'auto, mais il faut absolument qu'il y ait un véhicule standard, auto, autobus, pick-up, qui soit impliqué dans l'accident pour que tu sois admissible aux prestations de la SAC. Alors, oui, tu payes pour rien. En d'autres termes, non seulement tu payes pour rien, Yannick, tu payes des plaques pour enrichir la SAC. Il faut dire qu'on en a bien besoin par les temps qui courent. Mais en plus de ça, le problème que ça cause, c'est que ça envoie un mauvais message parce que ça donne l'impression aux gens qui ont une motoneige plaquée parce qu'ils ont payé les droits d'immatriculation, ça leur donne l'impression, et souvent la fausse assurance, qu'ils sont couverts en cas d'accident avec la motoneige du fait qu'elle est plaquée, exact. Ce qui n'est pas le cas. Alors, ce double message-là, contradictoire, cause beaucoup de problèmes chez les gens parce que très souvent, les gens vont penser qu'ils sont assurés à la SAC du fait qu'ils sont plaqués, ce qui n'est pas le cas. Ça dépend du type de véhicule.
Autre sujet, ça a fait jaser la semaine dernière, je peux vous dire. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de, excusez-moi l'expression, mais de chier sur la personne qui a décidé de se plaindre, mais c'est plus pour en savoir plus concernant vos notions de droit dans ce dossier-là. Il y a un salon de coiffeur qui a été condamné à payer 500$ à une personne non-binaire. Le gars est allé sur le site Internet du salon de coiffure. Je dis le gars. La personne est allée sur le site Internet du salon de coiffure et dans le questionnaire pour pouvoir réserver, ben, on demandait à savoir est-ce que vous voulez une coupe de cheveux homme ou femme. Et il n'y avait pas de coche pour les gens qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Et ça l'a outré la personne qui est non-binaire. Elle a appelé au salon de coiffure et le propriétaire, de ce qu'on comprend, était très ouvert, était bienveillant et lui a dit « coche un ou l'autre et après ça, présente-toi, puis nous, on va s'organiser pour que tu sois bien, puis ça va bien aller. » Là, la personne non-binaire était fâchée, le propriétaire a dit « au lieu de se fâcher, ce que probablement moi j'aurais fait, là, au lieu de se fâcher, il a dit « garde, viens chez nous, je vais te donner 3 coupes de cheveux gratuites et je te promets que sur le site Internet, dans les prochains jours, les prochaines semaines, ben, il va y avoir une case uniquement pour les personnes qui se disent non-binaires. » Et malheureusement, ben, la personne non-binaire a décidé d'aller au tribunal des droits de la personne et a gagné sa cause et on lui a versé 500$ d'indemnité parce qu'elle est non-binaire et elle n'était pas... elle a ressenti un préjudice ou on a jugé qu'elle avait eu un préjudice. Sur quoi on s'est basé, Maître Bellemare, pour prendre cette décision-là? Parce que la semaine dernière, là, il y avait beaucoup d'émotions sur ce sujet-là. Là, en ce lundi soir, tout le monde est calme. La notion de droit là-dedans, c'est quoi exactement?
Ouais, c'est à peu près n'importe quoi, Yannick. Et évidemment, c'est un épisode extrêmement déplorable. Et je trouve que cette situation-là, dans la population, a un impact négatif. Et je comprends que les personnes non-binaires, on en recense au Canada une 40 000 actuellement qui ne s'associent ni aux hommes ni aux femmes. Mais là, on va loin. Et à mon avis, on va trop loin. Et c'est la Commission des droits de la personne qui décide de porter cette affaire-là devant le tribunal. Moi, je ne peux pas aller d'office devant le tribunal. Je peux aller en Cour supérieure, je peux aller en Cour du Québec, je peux prendre une poursuite civile, mais le tribunal des droits de la personne, il faut que ce soit la Commission qui décide de porter l'affaire devant le tribunal. Et je me demande, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du temps à perdre au niveau de la Commission des droits de la personne pour s'occuper d'un dossier comme ça. Et j'ai lu la semaine passée une chronique dans la presse de Patrick Lagacé, le 18 février, qui dit ceci, je cite, « Mais un salon de coiffure de Longueuil qui, sans hostilité, ne recalibre pas immédiatement son formulaire de réservation en ligne quand une personne demande qu'on lui écrit une petite case coupe non-binaire, je ne trouve pas que c'est une forme d'effacement. Je trouve que c'est une forme particulière d'enculage de mouche. » De la part de, voici Alex, on va l'appeler juste Alex par son prénom. Lagacé recense dans son article, réfère plutôt à un article qui avait été écrit en janvier 2024 de la part de cette même personne-là, non-binaire, Alex, à Vincent Brousseau-Pouliot de La Presse, Alex disait avoir fait dans sa vie une centaine de plaintes de toutes sortes pour faire valoir ses droits de personne non-binaire depuis une dizaine d'années. Alors, c'est comme si cette personne-là voyait de la discrimination partout et dans l'optique d'obtenir qu'on ait homme, femme et non-binaire, et ni l'un ni deux, décide de produire quantité de plaintes à la Société d'assurance automobile pour les permis de conduire, la Régie d'assurance maladie pour les cartes d'assurance maladie. Donc, il faudrait qu'on change tous nos systèmes, non seulement nos lois, mais nos systèmes informatiques, numériques, pour pouvoir inscrire hommes, femmes et autres. Alors, le gouvernement a toujours refusé de modifier les lois concernant l'assurance maladie et l'assurance automobile, mais là, ça a l'air que les salons de coiffure privés vont devoir s'ajuster. Moi, je trouve que ça va trop loin, personnellement, puis je pense que c'est contre-productif parce qu'il y a un ressac dans la population face à ça, puis les gens se disent « ça va trop loin, c'est inacceptable » et ça crée peut-être une forme d'opposition aux pratiques des non-binaires qui vont trop loin cette fois-ci, à mon avis.
Mais jusqu'où peuvent aller les accommodements raisonnables selon le tribunal? Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, il n'y a plus de limite. Quelqu'un qui pourrait se dire extraterrestre pourrait dire devant la Commission des droits de la personne, moi, je me suis toujours senti extraterrestre, puis on n'a pas mis une case pour les gens qui ne viennent pas de cette planète-ci. C'est d'un ridicule. À un moment donné, il va falloir les fixer, les règles concernant les accommodements raisonnables.
Il va falloir les fixer, mais ça, c'est des jugements. Le Tribunal des droits de la personne, c'est un tribunal, et la Commission des droits de la personne, c'est une commission. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent des dossiers à la Commission des droits de la personne. Je pense que c'est un peu ça. On se souviendra de l'épisode Mike Ward aussi, qui s'est retrouvé devant la Cour suprême, où la position de la commission était complètement scrappée. D'ailleurs, Lagacé le rappelle dans sa chronique. Et on a l'impression qu'il y a, du côté de la Commission des droits de la personne, des gens qui cherchent des dossiers, qui cherchent des problèmes, qui voient de la discrimination partout et qui décident d'utiliser nos impôts pour pouvoir mener ce type de combat-là, présenter ça à la commission, au Tribunal des droits de la personne avec des avocats, aux frais de l'État, et tout ça coûte de l'argent évidemment aux contribuables. Puis les gens commencent à se demander comment ça se fait que ce type de jugement-là est rendu, comment ça se fait qu'un salon de coiffure qui, sans hostilité, de façon très courtoise, parce que de la façon dont on raconte l'histoire, Alex a demandé d'avoir une possibilité de s'inscrire dans le non-binaire. Ce n'est pas le cas, mais on n'a pas été hostile. Il n'a pas été reçu comme un chien d'un jeu de quilles. Il n'a pas été reçu de façon discriminatoire. On a tout fait pour l'accommoder. Mais là, on condamne le salon de coiffure à payer 500$ pour ça. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Et je souhaite qu'il y ait une contestation de ce jugement-là, parce que c'est possible de le faire. Dans l'affaire avec Mike Ward, l'affaire avait été contestée devant les tribunaux supérieurs jusqu'en Cour suprême. Mais dans ce cas-ci, l'affaire, c'est que compte tenu du petit montant que ça représente, est-ce que le salon de coiffure va contester ce jugement-là devant les tribunaux supérieurs jusqu'à la Cour suprême, comme l'a fait Mike Ward dans cette affaire-là, et les victimes alléguées à l'époque. On s'est aperçu qu'à la Cour suprême, ça n'a pas fonctionné, mais Mike Ward a finalement été blanchi. Mais il reste que, est-ce que c'est un salon de coiffure va faire toutes ces procédures-là pour 500$? Évidemment pas. Je ne penserais pas qu'ils vont engager des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, peut-être des centaines de milliers de dollars de frais d'avocat pour aller devant les tribunaux supérieurs au-delà du Tribunal des droits de la personne. Probablement que ça va demeurer une forme de jurisprudence qui va s'arrêter là au niveau du Tribunal des droits de la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu une bonne cause pour aller en appel et éventuellement devant la Cour suprême sur cette question-là. Mais qui va le faire? Évidemment pas. Fait que ça demeure des jugements isolé dans une certaine mesure, mais j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de suite parce qu'à mon avis, ça ne tient pas la route.
Ça peut-tu faire jurisprudence, c'est-à-dire que moi, là, du jour au lendemain, je me considère comme non-binaire, là, puis je trouve une faille là, dans une entreprise à Montréal ou Québec là, où il n'y a pas ma case non-binaire. Je peux-tu me présenter devant le juge en mentionnant cette décision du Tribunal des droits de la personne?
Ben, c'est ça le danger. C'est ça le danger, c'est que là, ça fait boule de neige. Et là, on a probablement que suite à cette décision-là, avec toute la publicité qu'elle a obtenue de la part des journaux, des médias, on en parle aujourd'hui, c'est une forme de publicité aussi. Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Alors, c'est certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire, ben moi aussi, je suis non-binaire, puis moi aussi, mon garagiste, quand je m'inscris, il dit homme-femme, mon restaurant, il faut que je marque homme-femme, les passeports... Quand je réserve des billets, parce que moi, actuellement, je suis en train de réserver des billets pour des spectacles. Là. Alors, tu sais, ils disent « monsieur, madame ». Des fois, ils marquent « autre », mais des fois, c'est « monsieur » ou « madame ». Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fichiers numériques, il y a beaucoup de sites Internet qui offrent des produits à la population où ce n'est pas marqué autre, où ce n'est pas marqué ni homme ni femme. Alors, ça veut dire que tous ces gens-là sont susceptibles demain matin d'être victimes de ce type de plainte-là à la Commission des droits de la personne, ou bien d'être éventuellement condamnés. Il faut dire que la somme n'est pas très élevée. Et moi, je ne pense pas qu'il faille virer mer et monde au plan numérique et au plan du web, sur la toile, pour ajuster tous les sites, même que je peux te dire que je ne recommanderais jamais à un client de faire ce type de changement-là, compte tenu que ça m'apparaît être un jugement isolé, isolé, qui, à mon avis, n'aura pas de suite. Et ce n'est pas parce qu'un jugement a été rendu dans une cause spécifique de cette nature-là qu'il faut virer mer et monde. Ça ne vient quand même pas de la Cour d'appel, encore moins de la Cour suprême du Canada. Donc, la force jurisprudentielle de cette décision-là est très, très limitée, à mon avis.
On vit dans un monde de fous, là. T'sais, moi, je suis pour une ouverture pour les minorités. J'ai aucun problème avec ça. S'il y a des gens qui se considèrent comme lésés, ben, on est toujours prêt à les aider. Mais quand je considère qu'il y a de l'abus, à un moment donné, il faut le mentionner. Je regardais l'histoire de Québec solidaire la semaine dernière, qui a fait énormément jaser, parce que dans un secteur où un député fédéral voudrait se présenter, ben il y a une loi chez Québec solidaire qui dit, ben, à cet endroit-là, dans ce comté-là, ce qu'on aimerait, c'est une femme ou une personne non-binaire encore. C'est Alexandre Boulris là, qui serait intéressé. Alexandre Boulris, qui est un député du NPD, serait intéressé par la circonscription de Gouin. Mais là, c'était une circonscription qui avait été offerte à une femme et ou quelqu'un de non-binaire. Là, on est en train de refuser des candidatures parce qu'ils n'ont pas le bon sexe. Mais de Bellemare, on est-tu rendu un asile à ciel ouvert?
Non, mais au moins, on a le droit de ne pas voter pour Québec solidaire, ne serait-ce que pour cette raison-là.
Non, c'est un bon point, mais je veux dire, j'aurais pas voté pour Québec solidaire.
Mais non, mais c'est parce que les électeurs du Québec qui votent une fois par quatre ans, qui vont voter en octobre, qui voient ça, il y a des gens qui ont le droit de dire « c'est ridicule et je n'appuierai pas une formation politique qui impose un sexe ou une absence de sexe pour une candidature. » Et il y a des gens qui ne voteront pas pour eux à cause de ça, parce que c'est le seul parti politique qui fait ça, puis ça va trop loin. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord avec ça, une attitude tout à fait « woke », où on dit que ça prend un sexe précis pour pouvoir être candidat. Alors, comme on pourrait dire que ça prend une race précise, une couleur de peau précise pour être candidat. Donc, c'est du racisme à l'envers, finalement. C'est du sexisme à l'envers.
Ben, moi, j'appellerais ça du racisme, tout simplement, parce que du racisme à l'envers, ça veut dire que c'est les Blancs qui sont racistes d'habitude. Moi, je pense que c'est juste du racisme, tout simplement, ou du genrisme.
C'est du racisme, effectivement. Et Québec solidaire s'inscrit dans une perspective raciste en faisant ça, ou sexiste. Alors, il y a bien des gens qui vont dire « moi, je ne voterai jamais pour un parti politique qui prône ce type de sexisme-là et qui interdit ou souhaite interdire une candidature masculine simplement à cause que c'est un homme. » Et là, il y a tout un débat. Tout ça est public. C'est Antoine Robitaille qui a sorti la nouvelle la semaine dernière. Après ça, ça a été suivi par d'autres... par la presse et par d'autres médias. On en parle aujourd'hui et il y a beaucoup de gens qui disent que Québec solidaire, c'est des flyés, puis c'est des gens qui cherchent pas la meilleure personne pour être candidate, mais qui cherchent une personne qui correspond au sexe requis par les statuts du parti. Alors, voilà, il y a un coût politique à payer pour ça. Je dis pas qu'il y a pas des gens qui vont dire « moi, je vote Québec solidaire parce que je trouve ça bien le fun » qui exige une candidature féminine ou non-binaire. Il y en a certainement dans la population qui pensent ça, mais je pense qu'il y a pas mal plus de gens qui sont indignés par cette mesure-là que de gens qui la favorisent. Et on verra bien dans l'isoloir ce que ça donnera. Ça n'enlève pas les qualités d'Alexandre Boulris, qui est un parlementaire remarquable, qui a fait sa trace au niveau fédéral. Je pense que s'il se présente pour Québec solidaire, c'est une bonne candidature. Mais d'y faire de la misère simplement parce que c'est un homme et de devoir modifier un paquet de statuts pour en venir à accepter une candidature de cette qualité-là, ça montre jusqu'à quel point ce parti-là présente des problèmes de connexion avec les, les réalités des électeurs québécois aujourd'hui.
Autre dossier provincial, Jean-François Roberge nous a encore surpris la semaine dernière. Je pense que c'est vendredi que c'est tombé dans l'actualité. C'est jeudi soir où on apprend que Jean-François Roberge veut interdire les signes religieux aussi aux intervenants de la DPJ. Il veut que les intervenants de la DPJ n'aient pas de signes. C'est dans son fameux projet de loi sur la laïcité là, qu'on veut renforcer chez le gouvernement Legault. Et on prévoit bon, la fin des prières de rue. On a proscrit aussi le port des symboles religieux chez les éducatrices des CPE et le personnel des écoles privées. Et là, on ajoute aussi les employés de la DPJ. Maître Bellemare, c'est-tu compliqué pour un gouvernement de donner une clause grand-père? C'est-à-dire ceux qui, à partir de telle date, n'avaient pas le droit d'être voilés à job, ont le droit de porter le signe religieux, puis ceux qui sont embauchés après cette dite date-là, ben n'ont pas le droit de port de signe religieux. C'est-tu si compliqué que ça, une clause grand-père pour le gouvernement de la CAQ?
Oui, peut-être. Ça devient bien compliqué. Mais tout ce qui t'appelle laïcité, on a l'impression que le gouvernement marche sur des œufs. Il essaie de trouver une solution, peut-être en n'étant pas trop sévère par rapport à ceux qui auraient, entre guillemets, des droits acquis et d'autres personnes. Alors, c'est toujours le même problème parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre au Québec et en plus, la question des droits fondamentaux, parce que tout ça est appuyé par la clause dérogatoire. À chaque fois qu'on... Le gouvernement concède qu'il y a une forme de discrimination basée sur la religion, l'appartenance religieuse, mais en même temps, à travers la clause dérogatoire, il essaie de se soustraire à l'application des chartes et des jugements éventuels de tribunaux qui pourraient casser ces mesures-là. Mais en même temps, il y a toujours la question de la pénurie de main-d'œuvre, Yannick, parce que, tu sais, dans le réseau de la santé, services sociaux, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on charge du monde.
Dans les CPE, là, il y a des nouveaux arrivants, Maître Bellemare, vous n'avez pas idée. On a besoin de cette richesse-là quand ils arrivent chez nous. Ils veulent s'impliquer auprès de nos enfants. Moi, à partir du moment où tu as accepté que cette dame-là vienne travailler chez toi, même si elle avait un voile sur la tête, ben tu dois respecter ta promesse. Là. C'est pas vrai qu'il faut l'envoyer à la maison puis dire, regarde, à cause de ta religion, tu vas retourner chez vous. Pour les autres, par exemple, moi, je pense que le gouvernement, c'est tout à fait légitime. À partir du 23, 24, 25 février, tiens, c'est fini, c'est terminé. Puis les nouvelles embauches vont se faire sans signe religieux. J'ai aucun problème avec ça. Mais ceux qui sont déjà là, qui nous aident dans les hôpitaux, qui nous aident dans les écoles, qui nous aident dans les CPE, pouvez-vous respecter votre promesse? C'est-tu si compliqué que ça? C'est comme le PEC, ça. On a promis à des gens qui venaient de l'extérieur de venir s'établir chez nous. Ils se sont établis chez nous. Les enfants vont dans les écoles. Puis là, on dit, bon, on change d'idée, puis on renvoie ces personnes-là d'où ils viennent. Il me semble que c'est ingrat comme façon de faire.
Oui, c'est sûr. Et c'est tout là le rôle extrêmement délicat du ministre Roberge. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme-là. Il prend des décisions difficiles. Il est au cœur de la laïcité au Québec, Yannick. Et là, c'est tout un débat. Et les Québécois, la question, c'est clair, c'est que les Québécois majoritaires, surtout francophones, sont écœurés de ces questions d'accommodement et de signes religieux. Et ils veulent avoir un gouvernement qui va limiter l'impact des signes religieux, surtout dans les fonctions publiques. L'enseignement, la police, les tribunaux, les jobs publics, où tu as affaire avec le public et tu représentes l'État, parce que l'État québécois est laïque. Tout le monde est d'accord avec ça. Dans l'application concrète, par contre, avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux immigrants au Québec, ça complique les affaires. Et là, il est obligé de faire des gymnastiques et de voir comment il va appliquer ces mesures-là concrètement, sachant que les Québécois sont favorables à la laïcité le plus possible. Évidemment, il y a des enjeux politiques. On est en élection dans quelques mois. On est dans une année électorale. Il y a une campagne au leadership au niveau de la CAQ parce que M. Legault quitte. Alors là, c'est le temps pour M. Roberge d'arriver avec des mesures intelligentes, raisonnables, défendables pour la majorité des Québécois. Et
Mais ça leur enlève quoi?
On va devoir se rallier à ces mesures-là puis mettre le pied à terre pour dire, bien voici... Moi, si je deviens premier ministre, c'est ce que je veux.
Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est au gouvernement de dire ce qu'il veut chez eux puis ce qu'il ne veut pas chez eux. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Mais quand on a fait des promesses, Ça leur enlève quoi de donner
une exemption.
Une clause grand-père aux gens qui ont été embauchés avant cette dite date-là? Ça aurait tellement acheté la paix, puis c'est tellement respectable de le faire plutôt que de revenir sur tes promesses, que ce soit pour le PEC ou encore le port des signes religieux pour nos dames qui aident nos enfants dans les CPE. Je trouve ça cruel comme façon de faire. Puis tu sais, moi, les signes religieux, ça m'intéresse pas tant, bien honnêtement. Là, je regarde ces personnes-là, puis je me dis, ben, est-ce qu'elles veulent porter le voile? Bien, si elles veulent porter le voile, c'est correct, c'est leur affaire. Si elles sont obligées de le porter le voile, là, moi, j'ai un problème avec ça. T'sais, j'ai un problème avec le bonhomme qui décide de l'obliger à porter le voile. Si c'est leur décision à elles, aucun problème avec ça. Mais que le gouvernement dise, non, ça, c'est valable pour tout le monde. Fait 5 ans que tu travailles pour le gouvernement, tu as un voile sur la tête, bien là, tu vas l'enlever à partir d'aujourd'hui. Je trouve pas que c'est une belle façon de faire ça. C'est pas une belle façon de vivre ensemble.
Mais c'est ça. Mais il y a des choix politiques qui vont devoir se faire. Par exemple, pour le PEC, qui est un petit peu la même affaire, des gens qu'on a accueillis ici comme immigrants temporaires, là, on commence à changer les règles. Donc, il y a de la pression sur le gouvernement pour modifier le PEC. Mais est-ce que, là, Mme Fréchette a dit qu'elle avait des réserves par rapport à ça, on devrait peut-être avoir là aussi une forme de clause grand-père. Je pense que tout ça va tomber sur le sens. J'ai bien confiance, moi, qu'avril, mai, dans le courant du printemps, le gouvernement arrive avec une position beaucoup plus claire, beaucoup plus raisonnable. J'ai l'impression que ça s'en vient. Et la campagne au leadership de la CAQ va donner des réponses claires à tout le monde à ces enjeux-là, parce qu'au bout de la ligne, c'est ou bien M. Drainville ou bien Mme Fréchette qui va être première ministre du Québec dès ce printemps. Et ces gens-là vont devoir arriver avec des propositions claires en vue des prochaines élections. Puis que, je pense bien que tous ces enjeux-là vont faire partie de mesures concrètes et très claires éventuellement.
On parle d'actualité avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Dossier de SAAC, DIVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Après la pause, Maître Bellemare, on parle de Google qui a été condamné à verser plus de 1,5 million de dollars à un Québécois concernant des pages diffamatoires. Donc, restez là et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Dans les dernières semaines, Boulevard 102.1 et Alimentation Première vous ont donné faim. Pis pas à peu près. Médaillon de porc, pâte de crevettes, filet mignon, bacon. Let's go! Après plusieurs capsules...
Breaking news. Alimentation Première.
Nous connaissons enfin l'identité du grand gagnant de la carte cadeau Alimentation Première de 5000 $. Ça, c'est un an de viande et de poisson.
Oui, allô?
Bonjour, est-ce que je peux parler à Stéphanie, s'il vous plaît?
Oui, c'est moi.
T'es la grande gagnante.
Boulevard 102.1 et Alimentation Première. Fier de vous gâter.
Boulevard Toyota vous invite à son événement BZ 2026. Concours de présence électrisant. Offre exceptionnelle et même un barista sur place. Boulevard Toyota vous attend.
Du 10 au 12 septembre, en collaboration avec Molson Export, c'est le festival Envolé Macadam. Bad Religion, Satanic Surfers, Les Ghouls, Hatebreed et plus de 30 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec et à l'Agora du Port de Québec. Le festival Envolé Macadam du 10 au 12 septembre. Une présentation Boulevard 102.1 de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec. Billets en vente maintenant sur envolemacadam.com.
Nouveau départ en vue? À Sainte-Foy comme à Lévis, Immeuble Roussin offre des condos locatifs de qualité. Un groupe immobilier reconnu où le service est une priorité. Les disponibilités partent vite. C'est le temps de réserver votre prochain chez vous. Visitez immeubleroussin.com.
Depuis plus d'un siècle, Junot et Frères est la référence en peinture et décoration. Du 4 au 8 mars, profitez de 30% de rabais sur les produits Sico, cuisine, salle de bain, Virtuo, Prestige et Surface Net. Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand ou nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture. Attends, tu me dis que les huîtres sont à 1 $ tous les soirs?
Oui, oui, tous les soirs, dès que tu prends place au bar.
Donc, après le travail, avant un spectacle ou juste parce que j'ai envie d'huîtres, c'est toujours 1 $?
Exact!
OK, là, ça change mes plans.
Ophelia sur Grande Allée. Les huîtres à 1$ au bar, tous les soirs. RestaurantOphelia.com.
Les services Internet et télévision de la CCAP sont maintenant disponibles à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Profitez d'une connexion fiable et locale et faites confiance à une coopérative avec plus de 40 ans d'expertise en télécom. Soumission gratuite au ccapcable.com.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Envie d'un été actif et rempli de plaisir? Les inscriptions sont maintenant ouvertes au Deck Hockey de la Capitale, Ligue Junior et Ligue Adulte. Deux complexes pour jouer tout l'été à Chauveau et à Saint-Augustin. Inscrivez-vous dès maintenant au ddlc.ca.
Saviez-vous que Marseille est maintenant accessible par vol direct depuis Québec parmi plus de 35 destinations? Voler de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, c'est simple. Peu de fil, courte marche et aérogare moderne. Visitez décollerdequebec.ca ou parlez-en à votre conseiller en voyage.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au Super C.
Pour un véhicule d'occasion certifié Subaru, inutile de chercher. Lévis Subaru est la référence à Lévis. Venez choisir le vôtre et profitez d'un taux d'intérêt à partir de 3,99%. Qualité, fiabilité et tranquillité d'esprit vous attendent chez Lévis Subaru.
Visitez lévissubaru.com.
Le lundi 2 mars, à Expo City, venez célébrer le 21e anniversaire de l'événement le plus prestigieux de l'année. La soirée bénéfice avant-première de l'International de l'Auto de Québec. Musique, nourriture, boissons, acrobates et plus. Les fonds amassés seront remis à la Fondation Mobilis, qui vient en aide aux gens ayant des besoins liés à la mobilité. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Services aux concessionnaires, IA Financement Auto et Boulevard. Billets au internationaldelautodequebec.com.
Envie d'un nouveau défi? Cometal recrute un estimateur en ventilation. Vous n'avez jamais fait d'estimation? Aucun souci. Ce sont vos connaissances en ventilation qui nous intéressent. Le reste, on vous l'apprend. Salaire concurrentiel et avantages dès l'embauche.
Envoyez votre candidature à RH à commercial Cometal.
.ca. La radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous ce soir, comme à chaque lundi. Maître Bellemare, la semaine dernière, j'ai reçu l'aspirant au poste de premier ministre du Québec, Bernard Drinville. Je l'ai senti éteint. Je l'ai senti non combatif. Il a de l'air fatigué, M. Drinville. Christine ouais. Fréchette semble avoir le vent dans les voiles, surtout avec les dossiers où elle est fortement sollicitée. Elle a de l'air préparée, elle a de l'air à son affaire, elle a de l'air déterminée. Et de l'autre côté, on a un Bernard Drinville qui semble découragé de ne pas avoir les appuis qu'il pensait avoir pour devenir chef de la coalition Avenir Québec. Comment vous trouvez cette course à la chefferie-là depuis qu'elle est commencée?
Bien là, on va avoir des débats. J'ai hâte des débats. Moi, je pense que les débats vont être intéressants. Je pense que M. Drinville s'aperçoit que ses chances sont minces à cause des nombreux appuis, non seulement parlementaires, mais dans la population générale, dans le Fréchette à la côte. C'est une femme intelligente, avec un profil essentiellement économique, ce qui est important pour la CAQ. Ils ont besoin vraiment de remonter la côte du côté économique. Ça a toujours été une donnée importante pour François Legault, mais avec tous les échecs économiques qu'on a eus dans nos projets d'investissement, la CAQ a perdu beaucoup de votes de ce côté-là. Donc, Mme Fréchette pourrait peut-être amener un vent d'espoir du côté économique, qui n'est pas une carte nécessairement de force au niveau solidaire et au niveau du PQ. Et du côté libéral, on ne sait pas trop qui sont les forces du côté économique de ce côté-là. M. Milliard, oui, a un passé économique, mais je pense que Mme Fréchette, là-dessus, a le dessus du pavé. Alors, je comprends qu'il ne soit pas trop en forme, mais dans les débats, il pourrait surprendre. Est-ce qu'il va surprendre au point grâce à ses talents de communicateur au point de supplanter Mme Fréchette, j'en doute. Mais je pense qu'il va faire une bonne job au niveau des débats, à moins qu'il se retire là, ce qui est toujours possible. Hein.
Oui, c'est ce que je pense qui arriverait là, dans les prochains jours.
Pour qu'il se retire, un peu comme Mario Roy, qui finalement n'a pas réussi à avoir une candidature à chefferie libérale, ce qui donne de l'espace et de l'air à l'autre candidat. Parce que Mme Fréchette a besoin de temps. Alors, si M. Drainville se retire, bien, Mme Fréchette pourrait à ce moment-là avoir un peu plus de temps pour mettre le pied à terre, comme on dit, puis arriver avec des propositions concrètes en vue des prochaines élections qui pourraient être plus longuement germer dans nos esprits dans le contexte éventuel de votre CAQ.
Maître Bellemare, on parle d'un dossier où la Cour d'appel du Québec a statué. On a statué que Google doit s'assurer qu'au Québec, son moteur de recherche ne fournit pas de résultats menant à du contenu web mensonger et diffamatoire. On a donné un bon petit bonnet à cet individu-là, là, 1,5 million de dollars à quelqu'un qui se considère diffamé par Google. C'est quoi cette histoire-là?
D'abord, c'est qu'on a laissé Google, malgré les plaintes de l'usager, on a laissé Google laisser sur place, dans son site, sur son réseau, des propos mensongers, des propos qui n'avaient pas été vérifiés, des propos diffamatoires, et la personne en a subi un dommage. C'est un cas classique de diffamation. Tu ne peux pas laisser aller des informations fausses sur un individu à vaste échelle, sur Google, qui est quand même un réseau social extrêmement important, très couru, très consulté. Alors, tu ne peux pas laisser des informations comme ça. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement la condamnation, parce que je pense que Google n'avait pas beaucoup de causes au niveau de la condamnation. Il avait laissé des informations mensongères sur le site, sur un individu. Mais c'est le montant, moi, qui m'intéresse. Le montant est important. 1,5 million, c'est beaucoup d'argent. On n'est pas habitué d'avoir ça au Québec, ni au Canada, avec une jurisprudence. Nos tribunaux sont portés à dire sur 40 pages, ben oui, c'est dégueulasse ce que ce monsieur-là a fait. Il a dit des faussetés, il a dit des mensonges. On a brisé la réputation d'une personne. Puis au bout de la ligne, on se retrouve avec 5 000 $ ou 100 000 $ ou 50 000 $. C'est des montants ridicules. On a été longtemps là-dedans. Est-ce que ce jugement-là de la Cour d'appel est une nouvelle ère au niveau de la jurisprudence au Québec? Est-ce qu'on a finalement compris qu'une réputation, une intégrité, une image sociale, c'est important, puis on doit associer cette image-là à des sommes importantes lorsque l'image est brisée? J'espère que oui. J'espère qu'on est sur un nouvel élan et que maintenant, on va comprendre que le droit à l'honneur, à l'intégrité et à la réputation, c'est pas juste dans les chartes, c'est pas juste un texte sans conséquence, mais c'est aussi un montant d'argent appréciable. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est un jugement qui est rafraîchissant.
Maître Bellemare, je souhaite de passer un agréable lundi soir, de même qu'aux auditeurs, et on reprend ça la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir de faire de la radio avec vous depuis tant d'années. C'est le fun. On est un vieux couple, vous et moi.
Oui, et on va continuer.
Salut, bonne soirée.
Salut, bye bye. Merci tout le monde.
Merci d'avoir été là. Ciao, bonne soirée.
Marceau, le soir.
Dans les dernières semaines, Boulevard 102.1 et Alimentation Première vous ont donné faim. Pis pas à peu près. Médaillon de porc, pâte de crevettes, filet mignon, bacon. Let's go! Après plusieurs capsules...
Breaking news. Alimentation Première.
Nous connaissons enfin l'identité du grand gagnant de la carte cadeau Alimentation Première de 5 000 $. Ça, c'est un an de viande et de poisson.
Oui, allô?
Bonjour, est-ce que je peux parler à Stéphanie, s'il vous plaît?
Oui, c'est moi.
T'es la grande gagnante.
Boulevard 102.1 et Alimentation Première. Fier de vous gâter.
Boulevard Toyota vous invite à son événement BZ 2026. Concours, offres exclusives et plus. Louez le BZ XL 2026 à partir de 99 $ par semaine avec 6 000 $ de rabais.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes.
On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush, en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Playojo.
Chérie, oublie les lasagnes, faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
À Lévis, votre nouvelle destination entraînement, c'est Orange Theory Fitness. Un studio de cours en groupe qui combine cardio, musculation et accompagnement personnalisé pour vous aider à brûler des graisses et développer votre masse musculaire rapidement. Vous vous présentez, on s'occupe du reste. OrangeTheory.com.
En avant, moussaillon! Du 28 février au 8 mars, pour la relâche, montez à bord du Musée de la Civilisation pour une traversée rocambolesque inspirée par l'exposition Titanic, récits et destins. Spectacle, école de matelots, jeux questionnaires, ateliers, bricolage, il y a de tout pour tous les moussaillons. Vous allez rire, vous émerveiller, apprendre. Des moments à vivre en famille.